Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal, Jocelyne Moussa Oponde.
Concertation de Nairobi, quelques délégués des groupes armés du Nord Kivu ont finalement rejoint la capitale kényane hier mardi. Quel bilan dressé du projet de gouvernance de l'équipe gouvernementale Sam Malukonde un an après son investiture? Vous entendrez dans cette édition les avis du parti au pouvoir et de l'opposition. Professeur Marie-Claire Nganjou est notre invitée ce matin, la responsable du laboratoire de biologie appliquée et nutrition de la faculté des sciences de l'université de Kinshasa va parler de l'introduction du manioc dans la panification et la pâtisserie. Bonjour à tous. D'abord cette nouvelle. À Mbandaka, le tribunal militaire de garnison a condamné à perpétuité un agent de police pour le double meurtre de son commandant et d'un étudiant. Toujours au premier degré, le tribunal a également condamné deux étudiants, respectivement à 20 ans et 3 ans de servitude pénale principale pour détention d'armes et munitions de guerre, ainsi que pour rébellion. Deux autres ont été acquittés faute de preuves. C'était lors des échanges fourré du 12 avril dernier entre la police et les étudiants qui manifestaient contre la hausse des frais académiques. La population s'est félicitée du jugement rendu par le tribunal. Le point avec Paul Richard Malingela.
En procédé de flagrance, le tribunal militaire de garnison de Mbandaka a condamné ce mardi l'agent de police Sébastien Iyeli à la servitude à perpétuité. Il a été jugé coupable notamment du meurtre à bout portant de son commandant, le lieutenant David Mouya, et de l'étudiant Freddy Bomame. Il a été soumis solidairement avec l'État congolais au paiement des dommages et intérêts fixés à l'équivalent en francs congolais de 36 000 dollars à chacune des quatre parties civiles. Il a encore été dégradé et renvoyé de la PNC. Par ailleurs, le tribunal présidé par le lieutenant-colonel John Tounikonke a aussi condamné Philippe Boufilinkoye et Enoch Mbokolo, tous deux étudiants à l'UNIBA, respectivement à 20 ans et 3 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes de guerre et pour rébellion. Mais faute de preuves, un autre étudiant Mofili Yves et un jeune débrouillard Simpliste Magangou ont été relaxés par le tribunal, ce qui a suscité l'approbation du public qui a dit avoir désormais rétabli sa confiance à la justice militaire.
Qu'on a policier.
Pour le policier, ce n'est que justice parce qu'il n'a pas bien agi. Moi, je suis très ravi. Si la justice devient effective comme cela, nous apporterons volontairement nos affaires à la justice. Présent aussi sur les lieux, cet étudiant a jugé trop sévère la sanction de 20 ans, mais il a exhorté ses camarades à un comportement civique et rationnel. Mbandaka pour Chamalingi, la radio Okapi.
Au Nord Kivu, finalement, quelques délégués des groupes armés ont pris leur avion hier mardi pour Nairobi, la capitale kényane. C'est pour participer aux concertations entre le gouvernement congolais et quelques groupes armés qui sont à leur quatrième jour à Nairobi. L'avion affrété par le gouvernement congolais pour ce faire, selon le directeur adjoint de la communication présidentielle congolaise en mission à Nairobi, a décollé à l'aéroport de Goma vers 16h locale. Parmi, entre autres, délégués de groupes armés qui sont partis, on peut citer ceux de CMC Nyangoura, APCLS de Paul Mouanouka, AFRC de Jetem, ceux des deux factions de NDC Rénové, FPP de Cabidon et UPLC de Mayani de Beni. Il s'est ouvert hier mardi à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, le forum régional de sensibilisation et de renforcement des capacités des médias sur la prévention des conflits liés au discours de haine et la lutte contre ces phénomènes en Afrique centrale. Cette rencontre de Bangui réunit des journalistes responsables des médias en ligne et des blogueurs de 11 pays de la sous-région de l'Afrique centrale et a pour but d'outiller ces derniers sur les instruments onusiens et les dispositifs légaux pour juguler les discours de haine et leur permettre de s'engager collectivement à respecter les règles d'éthique et des déontologies encadrant les publications en ligne. Depuis Bangui, le point de Pamela Loubaki.
Deux allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture de ce forum. D'abord, le mot de circonstance prononcé au nom de toutes les entités des Nations Unies présentes à ces travaux par la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies pour la RCA, Madame Denise Brown, qui a salué l'implication du gouvernement centrafricain à ces assises organisées dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action des Nations Unies pour la lutte contre les discours de haine lancés le 18 juin 2019 par le secrétaire général Antonio Guterres. Selon elle, les discours de haine est un ennemi de la population car ils fragilisent la paix et le développement. Dans son mot d'ouverture, le ministre de la Communication et des Médias centrafricains, Serge Ghislain-Djory, a fait savoir que le gouvernement et la communauté médiatique centrafricaine sont heureux d'accueillir ce forum dans ce pays post-conflit où les discours de haine font rage au sein des communautés malgré les efforts consentis par les autorités, notamment par la dotation d'un plan national de lutte contre les discours de haine. Le ministre de la Communication et des Médias centrafricains a en outre émis le vœu de l'organisation d'une rencontre à l'intention des ministres de communication des pays de la sous-région de l'Afrique centrale sur cette même thématique.
Notons que ces assises qui se tiendront jusqu'au vendredi 29 avril sont organisées par le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale et la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale en collaboration avec le gouvernement centrafricain, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, le Bureau conjoint des Nations Unies sur droits de l'homme en RDC, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et le Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique centrale. Toujours en rapport avec ce forum des Bangui, les participants à ces travaux, qui sont notamment des responsables des médias en ligne et des blogueurs venus de l'Angola, du Burundi, du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Rwanda, de Sao Tomé-Principe et du Tchad, nous ont livré leurs impressions, surtout leurs attentes. On écoute tour à tour Patient Ligodi, responsable du média en ligne actualité.cd de la RDC et Joël Bigirimana du journal en ligne Iwaku de Burundi. Leurs propos ont été recueillis par Pamela Lubaki.
Nous sommes venus participer à ce forum organisé par les organisations sous-régionales dans le but justement de pouvoir partager des expériences sur les discours de haine dans nos pays respectifs et trouver, on va dire, le mécanisme non seulement de partage d'expériences mais aussi et surtout comment on fait pour notamment lutter efficacement au travers de nos plateformes contre ces discours de haine.
J'espère qu'on va être équipés, on va être outillés pour justement, en tant que journaliste et en tant que média qui travaille sur les médias sociaux, pour justement lutter contre ces messages de haine. Et aussi, j'espère qu'on pourra créer un réseau avec justement les médias, les travailleurs dans le domaine, pour qu'on puisse garder ce contact, pour qu'on puisse pérenniser les actions.
Suite de la série de reportages sur la visite des membres de la 5e commission de l'Assemblée générale de l'ONU, comme précédemment expliqué, c'est cette commission qui traite des aspects administratifs et budgétaires des opérations de maintien de la paix, le tout en fonction du mandat fixé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les hauts cadres onusiens ont donc quitté la RDC. Cynthia Bachizi, que peut-on retenir de cette visite ?
Tout d'abord, il faut préciser que le cycle budgétaire des opérations de maintien de la paix va du 1er juillet au 30 juin. L'enjeu autour de cette visite était donc la préparation des discussions relatives au prochain projet de budget de la mission. Après donc l'étape de Kinshasa, les membres de la 5e commission s'étaient rendus à Kalemie dans la province du Tanganyika et à Goma dans le Nord Kivu. Objectif, mieux comprendre les réalités auxquelles fait face la MONUSCO. Le tout au regard du contexte actuel marqué tout d'abord par la fermeture du bureau de la MONUSCO dans le Tanganyika d'ici juin prochain. Il était question d'évaluer les actions de stabilisation dans cette région où des groupes armés sont encore actifs, notamment dans la localité de Bendera, située à 125 km de Kalemie. Voilà pourquoi la délégation a rencontré à Kalemie non seulement les représentants de la MONUSCO, mais aussi ceux des agences des Nations Unies qui devront prendre le relais une fois la MONUSCO partie. Ensuite, les membres de la 5e commission de l'Assemblée Générale se sont rendus dans la province du Nord Kivu pour évaluer les efforts encore nécessaires pour un retour à la paix. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Dans la province de Lomami, plus de 700 personnes qui ont fui les conflits fonciers et de pouvoir coutumiers dans la localité de Kaloubi, territoire de Miabi, au Kassai oriental, s'y sont réfugiées depuis bientôt 4 jours dans le groupement de Benankuna, dans les territoires de Kamiji. L'administrateur du territoire de Kamiji qui livre cette information affirme que ces déplacés vivent dans des conditions précaires. Il demande à cet effet au chef de secteur de sensibiliser ces déplacés à rentrer chez eux pour poursuivre les travaux champêtres, car selon lui, la paix règne déjà dans leur localité. Roger Ngoy Kadile, administrateur de territoire de Kamiji, a été joint au téléphone par Esther Dalafina.
Il y a un groupe de gens qui est venu du village de Kaloubi dans le territoire de Miabi, où il y a eu un conflit de pouvoir. Dans ce désordre-là, il y a eu des maisons qui ont été brûlées et les gens ont fui leur village vers chez nous ici dans le territoire de Kamiji, justement dans le groupement de Benankuna, c'est là qu'ils sont. Selon le chef de groupement, il avait évalué à 700 personnes qui sont dispersées dans les différents villages par le fait que le calme est déjà revenu dans les villages conflictuels parce que tous les services de sécurité du territoire de Niagara sont là, ils ont rétabli la paix. Alors nous sommes en train de parler aussi avec les groupes de toute cette population-là pour retourner chez eux parce que c'est là qu'ils ont différentes activités, des empeintres, des l'élevage, tout ça, et c'est ça leur lieu habituel d'habitation. Alors nous préférons qu'ils rentrent au lieu de venir errer ici, là où ils n'ont pas d'activité, là où ils sont en train de passer peut-être nuit à la belle étoile, ce qui n'est pas préférable.
Contacté, l'administrateur du territoire de Miabi rejette ces allégations. Crispin Kabengele dit avoir dépêché une équipe sur place pour s'enquérir de la situation. Le gouvernement Samalou Kondé, investi le 26 avril 2021, a totalisé hier mardi un an depuis sa prise de fonction. Composé d'une équipe de 56 membres, ce gouvernement s'était fixé comme objectif de faire de la RDC un État fort, prospère et solidaire, tel que repris dans le document présenté officiellement le jour de son investiture. Un an après, quel bilan dressé de ce projet de gouvernance? Bountumba Tchabola Bintou, député national et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacré de la nation. Le bilan du gouvernement Samalou Kondé est positif. Il intervenait hier dans l'émission Dialogue entre Congolais animée par Kelly Kouté. On l'écoute.
En ce qui concerne l'éducation, il y a la poursuite du programme de la gratuité de l'enseignement primaire et la résolution des effets induits dus à la gratuité. Entre autres, l'augmentation des salaires des enseignants. Vous savez que les NI, les NP seront pris en charge dès ce mois d'avril ici. On ne va plus parler de ça. Ça fait partie du social. Il y a la distribution des bancs à travers la République dans le programme du gouvernement. Pas une école sans banc. La construction des nouvelles salles de classe dans des endroits où il y a eu l'augmentation des effectifs des élèves. Il y a la réduction de la TVA de 15 à 3%. Ça fait partie des cas congrès. Cette réduction va sans soi réduire les prix des biens sur les marchés.
En réaction, Valérie Mpoy, secrétaire nationale adjointe du parti politique SID, en charge de la formation idéologique et communicateur, estime que le bilan du gouvernement Samalou Kondé est selon lui une escroquerie politique. Il intervenait également hier dans l'émission Dialogue entre Congolais.
Le programme de gouvernement Samalou Kondé est une escroquerie politique vis-à-vis du peuple congolais. On a roulé le peuple dans la farine. Nous parlons de la distribution des bancs. Ils ont distribué combien jusqu'à aujourd'hui? Nous trouvons que ça ne va toujours pas. La construction de nouvelles salles de classe, il y en a combien par rapport à l'afflux? Nous parlons de la gratuité. La gratuité, elle ne vise pas, du point de vue de l'esprit de la Constitution, la quantité. Mais il fallait plutôt accueillir beaucoup d'élèves pour accroître la qualité de l'enseignement. Même les salaires qu'on avait augmentés aux enseignants de l'école primaire. Aujourd'hui, en sommes-nous les 300 000. Ça représente quoi? Il nous dit que la TVA est réduite de 15 à 3%. Mais est-ce qu'on a vu l'impact sur la réduction des prix sur le marché? Absolument pas.
Les deux extraits sonores ont été proposés par Guy Maté. Vous pouvez également réécouter ou télécharger cette émission en allant sur notre site internet www.radiokapi.net. Parlons également de ces plaintes des plusieurs responsables d'école ainsi que des parents d'élèves. Ils déplorent la prolifération des bars ou débits de boissons à proximité des écoles. Ils en appellent à l'implication des autorités compétentes. Reportage à Kinshasa de Sandra Sifa.
Plusieurs bars naissent à proximité des écoles sous le regard impuissant des préfets d'école ou de chefs d'établissement de plusieurs communes de la ville de Kinshasa. Certains d'entre eux fustigent cette situation qu'ils qualifient de dépravante. Selon eux, certains élèves se retrouvent dans ces bars après leur sortie de classe et certains enseignants aussi y vont. Ces professionnels de la CREE disent avoir déjà saisi l'autorité compétente, mais jusque-là, ils n'ont pas eu gain de cause. Le ministre de l'Éducation provinciale, Tamoutou affirme que son équipe et lui sont au courant de cette situation et ils y travaillent.
Il s'avère qu'il y a d'autres qui donnent des autorisations provisoires à une famille des écoles là où on trouve déjà des bars pour des écoles privées pour la plupart et ça nous pose des problèmes. Nous sommes en train de nous y attaquer. Mais pour les écoles publiques également ou d'autres écoles qui existaient avant, ce sont les responsables les territoriaux qui viennent de donner des autorisations parce que ces gens de bars ils ne s'installent pas librement.
Rappelons qu'une disposition de loi interdit d'avoir des bars à moins de 200 mètres des écoles.
Actualité internationale.
Au 61e jour de l'invasion russe en Ukraine, les chefs de la diplomatie et de la défense des États-Unis ont rencontré à Kiev le président ukrainien. Ils ont annoncé le retour progressif des diplomates américains en Ukraine et une nouvelle aide militaire conséquente. Le ministre russe des Affaires étrangères a prévenu que les dangers et que le conflit dégénère en troisième guerre mondiale étaient réels.
L'invité.
Notre invité est le professeur Marie-Claire Nganjou, responsable du laboratoire de biologie appliquée et nutrition de la faculté des sciences de l'université de Kinshasa. Elle s'exprime sur l'introduction du manioc dans la panification et la pâtisserie. Après avoir mené ses recherches avec son équipe, elle parle des proportions et aussi du type de manioc utilisé. Le professeur Marie-Claire Nganjou est interrogé par Babel Mpongo-Massimango.
Professeur Marie-Claire Nganjou, bonjour.
Bonjour.
L'UNIKIN vient de lancer ce premier pain fabriqué en partie à base de farine de manioc. Qu'est-ce qui vous a poussé à initier une telle chose?
En fait, nous avons eu l'impulsion quand même du recteur de l'université, mais nous avons toujours travaillé dans le manioc depuis plus de 30 ans. Nous avons effectué des recherches. Maintenant, avec l'opportunité de la guerre en Ukraine, nous ne voulions pas ou l'université ne veut pas rester en marge. C'est juste pour montrer à la face du monde, surtout de tous les Congolais, les décideurs, que c'est possible de continuer la boulangerie, la pâtisserie avec ou sans Ukraine.
Quelles sont les proportions en fait que vous utilisez? On a vu les pains, les gâteaux, même les beignets. Quelles sont les proportions?
Oui, en ce qui concerne le pain, on est encore à 20%. D'ailleurs, la loi le dit, le minimum est de 5%. Mais nous sommes déjà avec les expériences au laboratoire, nous sommes à 20%. Et tandis que pour les gâteaux, les pizzas, les gaufres et tout ce qui est de la pâtisserie, nous sommes déjà à 100%. C'est-à-dire qu'au cas où vraiment il n'y a pas de farine de froment, pour le moment, on peut faire la pâtisserie sans problème.
Quel est l'avantage d'utiliser ces autres farines dans la panification?
Les avantages sont surtout économiques et même la résolution des problèmes sociaux. C'est-à-dire, à partir de maintenant, le paysan a l'obligation d'augmenter la production. C'est question de l'intégrer dans la chaîne de valeur et on va voir qu'on peut lutter contre la pauvreté, contre la faim et surtout, c'est l'occasion d'améliorer l'industrialisation du pays.
Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quel type de farine de manioc? Disons la farine qu'on utilise pour faire le foufou, on peut utiliser ça aussi pour le pain?
Non, c'est là où on doit insister. La farine de manioc panifiable, c'est une farine non fermentée. C'est une farine sans odeur, sans micro-organismes, contrairement au foufou.
Ce type de manioc non fermenté, où est-ce que vous les trouvez pour l'instant?
Bon, jusqu'à présent, il y a 3 unités qui sont encore en expérimentation. C'est-à-dire, il y a une qui est là depuis 2-3 ans, il y a 2 autres qui viennent de s'installer. Sauf qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de commandes, où il n'y avait pas de commandes, parce que dans notre pays, il y avait une loi qui interdisait l'utilisation de toute autre farine. Vous avez suivi le ministre de l'Industrie, il dit, depuis 2020, nous avons fait une loi qui autorise les boulangers d'utiliser la farine de manioc dans la boulangerie et dans la pâtisserie. Maintenant, ces usines vont fonctionner, mais ne seront pas les seules, parce que les besoins en farine de fromage sont tels que la RDC doit augmenter la production, améliorer les équipements de transformation pour atteindre les besoins en farine panifiable pour tout le pays, quoi. Donc, le gouvernement doit fournir beaucoup d'efforts nous renforcer à produire beaucoup plus, mais surtout la transformation correcte dans les normes.
Professeur Marie-Claire Yanzou, les recherches qui ont abouti à ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce que vous avez commencé depuis longtemps. Et dans ce domaine de recherche-là, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés?
La recherche, ce n'est pas souvent financé. Les réactifs, les matériels qu'il faut utiliser au laboratoire, les manioc lui-même, j'ai dû faire le champ moi-même. J'ai dû vendre mes habits, mes bijoux pour arriver à faire des petites unités d'autofinancement pour essayer d'aller. Même tout ce que je fais là, ce n'est pas vraiment dans l'espace de l'activité commerciale, mais c'est beaucoup plus pour récupérer un peu d'argent pour acheter les réactifs. D'ailleurs, pour moi, c'est un miracle. Pour la première fois que j'ai vu venir voir ce qu'on fait, c'est vraiment exceptionnel.
Et pour le moment, vous formez à l'introduction de la farine de manioc dans la panification, dans la pâtisserie.
J'organise les formations avec mes collègues, comme le centre interdisciplinaire, le réseau congolais des acteurs de l'innovation. Nous organisons les formations sur les bonnes pratiques, sur comment fabriquer ces farines, comment mélanger les farines. Si l'UNICIN va nous appuyer, si le ministère va nous appuyer, ce sera une très bonne chose. Donc vous voyez que nous sommes capables d'aller même à l'UNILU, à l'UNICIN pour les former.
Merci beaucoup, professeur.
Merci.
Ainsi s'achève ce journal coordonné par Alain Irung sous la supervision de Martin Sebujangwe, Polydor Basunga. La mise en onde, merci de l'avoir suivi.